Bah moi, en cette saison 2024, j'insiste, mais je vois bien Cadillac, notamment au Mans, faire quelque chose.
Après, il faut pas oublier que l'année dernière, c'est une victoire Cadillac.
C'était de la foire d'empoigne,
Mais
surtout.
c'était, voilà, c'était ah, c'est ça, c'était qu'à 10 minutes de la fin, ça a été n'importe quoi. Il y a eu Nasser d'ailleurs impliqué là-dedans.
Hommage en un sens,
T'aimais
mais d'un
bien
autre
ça,
côté, le
toi?
WEC n'était pas vraiment mis en avant. Non.
Ça te plaisait le Super Sebring, toi?
Ben, ça me plaisait sur le principe. Maintenant, je trouvais que le WEC n'était pas vraiment mis en avant par rapport évidemment aux
Pareil,
12 heures de Sebring,
pareil.
qui pour les Américains est vraiment l'une des mecs, j'allais dire. On a appris que Cadillac ne ferait plus appel à l'équipe Chip Ganassi à l'issue de la saison 2024. Alors, ça, c'est quand même dingue.
Ouais, c'est une info qui a été sortie par Racer et puis Daily Sports Car aussi. Donc apparemment, le contrat prend fin à la fin de cette saison 2024 entre Chip Ganassi et Cadillac, et il ne sera pas renouvelé.
Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon fidèle acolyte Geoffroy Barre, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Ça ne change pas. Salut Geoffroy.
Salut Anthony, salut tout le monde.
Eh oui, cinquième numéro déjà, c'est bien, ça prend de l'ampleur cet Endurance Club. Cette fois-ci, on va partir en direction des États-Unis. On va évidemment se concentrer sur ce week-end parce que bien, il se passe quelque chose. 12 heures de Sebring, c'est déjà là. On est déjà en mars et ça va s'enchaîner assez rapidement. Après les 24 heures de Daytona, on a deux épreuves mythiques finalement qui ouvrent cette saison comme ça.
Alors ça va tellement vite que c'est même le sixième épisode d'Endurance Club, si tu veux être précis.
C'est pas vrai.
Si, si, si.
Ah bah tu vois,
Et
j'ai même pas
voilà.
suivi, ça va trop vite.
Et non, mais carrément. Et là, c'est vrai. Alors tu vois, je commence déjà par les petites confidences, mais on se dit à chaque fois quel sujet on va évoquer, quelle thématique on va aborder. On est sur vraiment. On a envie de vous présenter un épisode dédié, ultra complet, sur tous les termes techniques et notamment sur la BOP, parce qu'il y a moyen de disserter là-dessus. Mais là, on ne pouvait pas passer à côté de Sebring. Voilà. Évidemment, on fait une petite preview de la course qui va avoir lieu ce week-end. Et en plus. T'as eu le nez fin, puisqu'il y a eu une news qui est tombée cette nuit, donc on en parlera en fin d'épisode. Mais il y a,
Ça,
tu
je ne
peux.
le savais pas, hein.
Voilà, ouais, non, mais c'est vrai, mais il y a quand même une news qui est tombée, comme quoi, tu vois, l'actu. C'est bien aussi de rebondir sur l'actu, parce que c'est une actualité qui va avoir un impact énorme sur le reste de la saison et sur la saison prochaine.
Eh ben, on est bien d'accord. En tout cas, comme à notre habitude, puisque c'est le sixième numéro, comme tout le monde le sait, on
Voilà.
va donner les chiffres, on va donner des infos insolites, historiques aussi, pour permettre à tout le monde de mieux connaître le monde de l'endurance, mais également cette épreuve des 12 heures de Sebring, la 72e édition en 2024, où on retrouve, Geoffroy, 58 voitures engagées avec 10 Français au départ.
C'est un petit peu le prolongement des 24 heures de Daytona, en fait. C'est comme ça toutes les saisons, on IMSA. Depuis en tout cas qu'il y a eu cette convergence entre le Grand Am, la LMS, tout ça, machin. Voilà, on a la tradition de Daytona qui ouvre la saison fin janvier. Et puis Sebring qui arrive en mars. Donc on a une liste des engagés qui est assez conforme à celle qu'on avait à Daytona. Hein. Toi, tu as remarqué quelques petits changements à la marge, mais globalement, c'est la même chose, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a deux voitures en GTD et GTD Pro qui sont absentes. Donc on parle en GTD Pro de la Mercedes 75 du Sun Energy Racing et en GTD la Porsche 911 GT3 du Kelimos Wiz Riley. Sinon, il n'y a pas trop de changements, hormis en GTP où on accueille une nouvelle voiture.
Voilà, en GTP, il y a les débuts de la Lamborghini, puisque la SC63 a fait ses débuts officiels au Qatar pour la première course du WEC. En fait, il y a déjà un exemplaire qui avait roulé à Daytona fin décembre, si je ne dis pas de bêtises. C'était pour l'Aurore, ou même début janvier, je ne sais plus. Mais je crois que c'était même pas l'Aurore. C'était vraiment fin décembre.
C'était avant,
Ouais,
tout
et
à fait.
c'était
Et ils avaient roulé
des.
aussi au Texas, de mémoire.
Exactement, ils ont roulé au Texas. En fait, en Europe, ils ont roulé principalement Espagne et Italie. Et puis aux États-Unis. Il y a eu ce dernier test de Daytona qui était, je crois d'ailleurs que officieusement, la SC63 était l'une des plus rapides, si ce n'est la plus rapide, mais c'est un test, Lamborghini l'a confirmé après, qui n'était pas du tout dans la recherche de la performance, qui était plus un test mené pour valider l'homologation de la voiture, puisque je crois qu'elle n'était pas encore homologuée officiellement. Donc voilà, il y avait vraiment ce côté préparé jusqu'au bout, puisqu'on le sait, plus les constructeurs repoussent la date d'homologation, entre guillemets, plus celle-ci est valable longtemps, donc elle peut faire
Oui.
des saisons. Donc voilà, ils ont fait ça. Et effectivement, c'est la nouveauté. Double nouveauté aussi, puisqu'on a un équipage différent. Là, on a Matteo Ciroli, Andrea Caldarelli et Romain Grosjean qui sont à bord de la Lamborghini. Donc
C'est
ça va
fou de
être.
retrouver Matteo Ciroli, pilote Porsche d'habitude, qui se retrouve chez Lamborghini. Alors évidemment que c'est logique que ça fait partie du même groupe, mais c'est quand même assez intéressant à noter.
En fait, j'aime bien les histoires comme ça de pilotes, tu sais, qui ont longtemps, bon, Matteo Ciroli, c'est un peu moins le cas, mais qui ont quand même longtemps une filiation avec un constructeur, et puis après qui partent ailleurs. Et ça lance une nouvelle dynamique, Matteo Caroli chez Lamborghini, alors que comme tu le dis, il était avant chez Porsche. Moi, ça me fait penser un petit peu, je sais pas si tu vas être d'accord, mais à Gianmaria Bruni, qui était très longtemps marié avec
C'est vrai.
Ferrari, qui est parti chez Porsche et qui a plutôt fait des trucs pas mal aussi. Et voilà, ça donne une nouvelle dynamique dans une carrière. Matteo Caroli, il est encore jeune, mais voilà, c'est la nouveauté. Pilote italien, évidemment, chez Lamborghini, ils aiment bien ça. Avec
Oui.
Andrea Caldarelli aussi. Et Romain Grosjean, bah c'est cool aussi de le revoir là, puisque Romain Grosjean, quand même, dans la sphère endurance, on le connaît moins que dans la sphère, évidemment, monoplace, Formule 1. Mais voilà, ça fait plaisir de voir le pilote IndyCar qui a basculé sur du GT3, qui maintenant débute en GTP, donc c'est-à-dire en hypercar, et qui sera probablement, enfin je crois que c'est confirmé aux 24 heures du Mans.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y aura
C'est
deux
voilà.
Lamborghini.
Voilà, c'est ça en fait. Lamborghini, ils ont cette approche. Après, on va venir sur les 12 heures de Sebring, mais vu que tu me lances sur Lamborghini, qui est la nouveauté du week-end, Lamborghini, ils ont cette approche comme BMW là, sauf qu'eux, ils ont multiplié par deux les engagements. Et puis, comme Porsche, là aussi, un petit peu, avec même si c'est Penske qui gère l'engagement global, il y a quand même ce programme américain et ce programme WEC. Bah, Lamborghini, ils font les choses avec moins de moyens, clairement, on va pas se mentir, hein. Ils n'ont pas le business, ils n'ont pas les infrastructures que Porsche peut avoir par exemple, mais ils ont cette volonté d'avoir un double programme, donc c'est une voiture à chaque fois, une en IMSA, une en WEC. Mais moi j'aime bien cette façon de faire parce que c'est exactement la philosophie qui était derrière cette convergence de règlement et cette création de catégorie hypercar, c'est d'avoir une bagnole qui puisse à la fois disputer dans la même saison Daytona, Sebring, Le Mans, le Petit Le Mans. Donc voilà, eux ils jouent le jeu et effectivement 24 heures du Mans elles seront réunies, donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est la super bonne
Ouais,
nouvelle.
ça va être top avec le soutien de Ligier aussi, évidemment. Alors, Grosjean me fait la transition parce qu'on a un Français donc dans cet équipage Lamborghini. On en a 10 en tout. Il y a évidemment Sébastien Bourdais, Julian Lauer, Mathieu Jaminet, Fred Makowiecki, Tom Dillman en LMP2, Lilou Wadou, qui fait partie de ces 7 femmes engagées dans cette édition, Paul Louchatin, Franck Pereira, François Herriot. C'est une belle liste des engagés en tout cas. On a déjà hâte d'y être hein, parce que le départ, ça sera 14h30, heure française évidemment, sur Automoto la chaîne, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'à 2h30 du matin, on espère une autre victoire française, si tu me vois venir, parce qu'on a 13 Français vainqueurs au général. Jean Béra, Gérard Larrousse, Bob Volek, Yannick Dalmas, Laurent Aiello, Romain Dumas, Emmanuel Collard, Olivier Panis, Loïc Duval, Nicolas Lapierre. On se souvient que c'était
Ouais, les trois
un
ensemble.
beau trio. Ben voilà. Et puis Loïc Duval était aussi associé avec un certain Tristan Vautier et Sébastien Bourdais en 2021. Je me souviens avoir commenté la course, c'était exceptionnel, le dernier relais de Sébastien, comme d'habitude, de toute façon. Et puis il y a eu Benoît Trélu aussi qui a gagné. Voilà, 13 Français vainqueurs au général, j'entends. On espère évidemment cette année encore entendre. Alors j'allais dire la Marseillaise. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'entendre la Marseillaise. Il n'y a pas d'équipe française à part TDS Racing. Mais en tout cas, on espère avoir un Français sur le podium au moins.
Alors, normal, enfin, les chances de victoire française sont quand même assez limitées. C'est pas la nationalité qui est la plus représentée en hypercar, ou alors je dis une bêtise. Mais
Non, non, t'as raison.
tu vois qui, si on s'inscrit dans la continuité de Daytona, c'est Mathieu Jaminet qui apparaît d'ailleurs avec la nationalité luxembourgeoise sur la liste des engagés. Mais c'est Mathieu Jaminet qui serait et Fred Makowiecki qui seraient les plus à même de faire briller les couleurs françaises, ou alors tu mises
Ah, bah oui.
sur un Seb Bourdais qui connaît bien les lieux.
Ah, alors, c'est vrai que Seb
Ah,
Bourdais a deux
j'adorerais, moi
victoires
j'adorerais.
au général. Non, quand même, honnêtement, vu le début de saison, vu le podcast qu'on a fait aussi sur les chances Porsche, etc., je me dis qu'ils sont quand même dans une bonne dynamique. Chez Penske, en plus, petit aparté, mais en IndyCar, ils ont tout dominé. Ils ont failli faire le triplé à Saint-Pete, là, il y a
Ok.
quelques heures de cela. Je vois bien Porsche quand même encore se battre pour la victoire, mais peut-être face à Cadillac, tu as raison, parce que moi, en cette saison 2024, j'insiste, mais je vois bien Cadillac, notamment au Mans, faire quelque chose.
Après, il faut pas oublier que l'année dernière, c'est une victoire Cadillac.
C'était de la foire d'empoigne
Mais
surtout.
c'était, voilà, c'était ça, c'était qu'à 10 minutes de la fin, ça a été n'importe quoi. Il y a eu Nasser d'ailleurs impliqué là-dedans. J'aime bien pointer Nasser parce que enfin, ça va devenir mon nouveau José María López. Mais
Ah non!
si,
Oh là là, mais
si.
rien à voir! Felipe
Non,
Nasser,
mais je rigole.
attends, champion, ancien pilote de F1,
Mais
attends.
José María López, il n'est pas champion ou pas lui? Attends, il a plein de. Enfin, les titres qu'il a eu,
Oui,
regarde, champion du monde en endurance et
c'est
champion
vrai.
du monde en tourisme. Attends,
C'est vrai.
touche pas à mon José. Non, mais ce que je veux
D'ailleurs,
dire, c'est que
ça m'a fait
Felipe, il est
rire.
souvent impliqué dans les conneries chez Porsche, c'est ça que je veux dire.
Ça m'a fait rire quand même parce que ce week-end en IndyCar, Renaud Derlo et Stéphane Gentil se demandaient si les pilotes argentins connus étaient nombreux parce qu'ils parlaient de Canapino. Et ils ont oublié Lopez. Bah oui, c'est vrai que Lopez a gagné quand même les 24 heures du Mans. Ça faisait des années qu'on attendait ça pour un Argentin. Et puis donc, champion du monde, effectivement, tu as raison, en voiture de tourisme et en
Ouais,
voiture en endurance
c'est
donc.
une erreur dans la matrice à l'époque. Chez Citroën, ils voulaient plutôt faire gagner Yvan Muller et puis
Je
Loeb.
suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Ouais, je sais pas.
Sébastien Loeb peut-être,
Oui.
mais Yvan Muller, malheureusement, je crois qu'il n'avait pas toutes les chances de son côté. Il développait la voiture, mais
Oui.
je suis pas sûr que c'était lui qui était choisi.
Bon, alors revenons sur cette liste de Sebring. Effectivement, on a comme au Qatar. Et puis comme on va l'avoir toute la saison d'ailleurs, hein, on va pas se mentir, un déséquilibre, puisqu'on a 4 Porsche au départ. Donc c'est le
Ah
constructeur
bah,
qui est le plus
en
représenté.
même temps, bah oui, mais c'est eux qui choisissent
Oui.
d'engager beaucoup de voitures. Alors tu dis qu'il y en a 4, moi j'en compte 3. Ah non, 4, c'est vrai, il y a la JDC Miller que j'avais
Dis donc
oubliée.
les chiffres aujourd'hui, monsieur Drevet. Non mais oui, voilà,
Non,
il y
mais
a le
j'avais
cas.
où.
Oui, c'est vrai qu'il
Non,
y
mais
a.
on l'oublie facilement, malheureusement, cette voiture. C'est vrai que malgré ses couleurs très belles au demeurant, bon, elle n'a pas trop son mot à dire dans la lutte pour la victoire. Hein.
Bah en fait oui c'est eux aussi qui ont changé un peu parce que c'est sur cette voiture que Jenson Button avait fait une pige l'année dernière. Donc là effectivement l'équipage est remanié. Je pense pas que ce soit la Porsche qui va pouvoir jouer les troubles faits.
Non.
Celle de Handlauer, Picariello et Bruni déjà un peu mieux, je pense.
Ah, exceptionnel. Attends, Julian Andlauer et Alessio Picariello sur la même voiture avec
Ouais.
Gianmaria Bruni. Moi, je trouve
Ouais.
ça vraiment top hein, pour Proton.
Ah non, mais carrément, ça c'est une bonne. Et puis, c'est cette équipe aussi, enfin, l'association avec Mustang, Sampling, machin, enfin, il y a un côté très américain. Vous avez commencé à. Enfin, tu sais, tu me connais, moi j'aime bien le côté les histoires, un peu les trucs qui se font dans la durée. Et là, il y a une belle histoire qui s'écrit. Après, bah, peut-être qu'il faut continuer de miser sur une forme de continuité. Donc, peut-être pas la Porsche de Daytona, mais peut-être, bah, voilà, on rebat les cartes et c'est une Cadillac qui va cette fois-ci briller. Et clairement, bah, la 31, c'est la mieux armée, quoi.
Ouais, c'est vrai, avec Blomqvist, Derani et Aitken. Moi, j'oublierai
Ouais.
quand même pas les Acura parce que ils ont été malchanceux en termes de fiabilité, j'allais dire, à Daytona. Ils se
Oui.
battaient pas non plus comme l'année précédente pour la victoire haut la main,
C'est vrai.
mais ils étaient quand même dans le match. J'oublierai pas, ouais, effectivement, la 10 et la 40 de Wayne Taylor. On verra, mais en tout cas, ça prouve quand même que c'est ouvert, hein, cette 72e édition de Sebring.
Carrément, c'est ouvert. Et puis voilà, ça va faire plaisir aussi de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe derrière. Je le dis tout de suite, je pense que BM va être un petit peu en retrait. La Lamborghini, on
Oui.
l'a évoqué dès le début, mais c'est des courses. Et là, on va peut-être après, on fera une transition sur Sebring, le circuit en lui-même. Mais
Ouais.
Sebring est un test grandeur nature très difficile pour les hommes et pour les machines. Et
Oui, c'est bien
voilà.
dit.
Non, mais je pense que Lamborghini, là, ils vont avoir peut-être une course moins simple qu'au Qatar, puisque finalement au Qatar, elle a fait une course anonyme, la seule Lamborghini, mais apparemment elle n'a pas eu de gros problèmes.
Non.
Le circuit là-bas non plus est pas très cassant. Là, on est sur l'extrême inverse, quoi. On est sur vraiment une ancienne piste, un ancien aéroport militaire avec des plaques, avec des bosses partout. C'est un truc qui est très cassant et encore une fois, c'est une bonne occasion de mettre à l'épreuve le matériel, quoi.
Et donc à voir si, parce que j'ai une stat quand même hein, ce matin, même si je me gourre sur certains chiffres, six voitures, comme le nombre de numéros de l'Endurance Club, ont remporté à la fois Daytona et Sebring la même saison. Et tiens, tiens, par hasard, eh bien, il y a deux Porsche qui l'ont réussi, en 82 avec la 935 et en 85 avec la 962. Sinon, il y a la Riley Scott en 96, la Ferrari 333 SP en 98, la Honda Ligier de l'équipe ESM en 2016. Et puis la dernière, c'est le Wendt Taylor Racing avec la Cadillac à l'époque en 2017. Donc pourquoi pas Porsche s'imposer donc bah voilà une deuxième fois consécutivement et donc à la fois 24 heures de Daytona et 12 heures de Sebring. Ça serait un début de saison incroyable hein, quand même.
Ils ont tout pour eux en ce moment. On sait que ça cartonne. Matt Campbell, le pilote qui a le vent en poupe, puisqu'il a encore été très fort au Qatar, même s'il n'a pas gagné. Mais
Parce qu'on
il a
l'a
fait la
lancé,
pole.
hein. C'est parce qu'on en a parlé, hein.
Ouais, non, mais voilà. Ah oui. Mais tu vois, il est là aussi. Enfin, j'ai l'impression que là, tous les éléments sont réunis. Après, Sebring, exactement comme on dit et comme plein de gens l'écrivent tout le temps, Le Mans choisit son vainqueur, bah, j'ai un peu l'impression que Sebring, c'est pareil. C'est vraiment le type de course d'épreuve qui est très difficile, sur lequel il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires qui se racontent, il y a vraiment plein de mythes, mais il y a aussi le fait que même si tu as le meilleur matos et la meilleure équipe, ça reste un truc totalement dingue, quoi. Donc à mon avis, ça va être très ouvert.
Ouais, et ben c'est clair. 14h30, rendez-vous sur Automoto, la chaîne, donc dès samedi, si je dis pas de bêtises. Et ça se terminera dans la nuit de samedi à dimanche, donc toujours en direct. Voilà, j'aurai le plaisir de faire quelques petits relais au micro. Donc ça va être top, on va bien s'amuser. On va pas être exhaustif malheureusement sur cette liste des engagés. On sait qu'il y a quand même quatre catégories, hein, évidemment. On a parlé du GTP, parce que c'est la victoire au général dans cette preview qui nous a intéressés. Il y a les LMP2, évidemment. On a du GTD Pro, du GTD. Il y a une grosse liste d'engagés. 58 voitures en tout, 11 en GTP, puis derrière 13 en LMP2, 12 en GTD Pro et 22 en GTD. On aura l'occasion de faire un débrief complet, hein, évidemment, oui. Geoffroy, à l'issue de cette course. Rappelons quand même le record à la distance. Audi, avec sa R15 en 2009, est-ce qu'il est battable ce record? Ça va être difficile quand même, non?
Non, ça va être difficile. En fait, oui, c'est vrai, c'est marrant, c'est la... puisque le record de la distance aux 24 heures du Mans est détenu par Audi aussi, avec la R15. Oui. Plus, celle plus. Qui est arrivée en 2010. Le record de la distance au Mans, c'était 5335 km qui a longtemps tenu. C'était le record de la Porsche 917. Et puis il est passé,
sans les chicanes.
Voilà. Et puis il est passé en 2010 à 5410 km. À titre de comparaison, pour Sebring, le record de la distance, là, c'est 2280. Donc c'est assez cohérent par rapport au fait que l'épreuve dure 12 heures. bon, la philosophie des. Enfin, les pistes sont très différentes, mais voilà. Le record de la distance est 2280 km. Et donc, c'est marrant puisque c'est la même voiture, même si elle a fortement évolué entre 2009 et 2010, l'Audi R15. Mais c'est le même modèle, on va dire, qui a les records de distance dans les deux épreuves. À Daytona, c'est pas le cas puisque l'Audi R15 n'a jamais roulé à Daytona.
Ouais, c'est vrai. Ben, c'est sympa en tout cas. Hein. C'est vraiment la course à l'américaine par excellence, hein, Sebring. Parce que tu as parlé des boss comme tout le monde en parle de ces boss. Mais on va parler aussi d'autres petites informations justement sur ce Sebring International Raceway qui accueille les courses d'endurance depuis des années. Ça fait quoi depuis les années 50 ? Enfin, même depuis l'année 50, je crois, la création de cette piste officiellement ?
C'est ça, c'est dans les années 50 que ça a commencé. Et en fait, c'est une ancienne base d'entraînement de l'armée. Ça, tu vas peut-être pouvoir développer un peu plus. Je sais que tu connais ce truc-là. Et en fait, ça a été récupéré par la ville, et puis par la ville de Sebring, puisque c'est aussi le nom d'une ville, Sebring. Et donc, y a un ingénieur, Alec Ullman, qui a eu l'idée de se dire. Il s'est dit, moi, j'aimerais bien faire décliner les 24 heures du Mans, mais en version chez moi, aux États-Unis, quoi. Où est-ce que je pourrais faire ça? C'est un peu la même idée d'ailleurs qui a finalement donné naissance aux 24 heures de Daytona. Il y a d'autres trucs derrière, mais Daytona c'est un peu parce que les mecs faisaient la course sur le sable et à un moment ils se sont dit c'est commence à être dangereux et embêtant pour les riverains, on va peut-être se construire un circuit. Donc, c'est comme ça que c'est né, mais il y avait quand même cette idée, cette volonté de singer entre guillemets les 24 heures du Mans puisque c'était l'épreuve d'endurance la plus ancienne à l'époque. Et donc à Sebring, il y a eu cette idée de j'aimerais bien faire une course, où est-ce que je pourrais la faire? Ah mais c'est marrant, il y a cette ancienne base militaire, l'armée n'en fait rien, pourquoi pas l'utiliser comme circuit? Alors je sais pas si c'est l'idée du siècle d'utiliser une base militaire avec des plaques de bitume et de béton pour faire un circuit, mais depuis...
En tout cas ça tient, hein.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, depuis pas mal d'éditions ça nous tient en haleine, donc finalement ça a bien marché, ouais.
Bon, moi, je le remercierais, moi, ce Alec Ullman, donc justement, ingénieur aéro. En fait, au début, il cherchait un lieu pour restaurer des appareils militaires. Il voulait en faire un usage civil. Puis il s'est dit, je suis quand même passionné de bagnole, ça serait pas mal de faire une course. Et donc, le 31 décembre, en plus, c'est en hiver. Bon, après, on est à Miami, on n'est pas loin de Miami, on est en Floride. Donc, évidemment, qu'il fait toujours à peu près beau. Mais bon, le 31 décembre, en tout cas, il réunit un groupe de pilotes. Et il fait un départ en épi à la manière des 24 heures du Mans, où les pilotes traversent la piste et s'attaquent à une course de 6 heures. Donc c'était le début, finalement, après avoir été longtemps une base d'entraînement militaire pour l'US Army et les Air Force, hein, justement, avec les B-17 Flying Fortress. Tiens d'ailleurs, petite question, mais je sais que tu as la réponse. Il n'y a pas eu une voiture qui avait une décoration, justement, qui honorait les B-17 Flying Fortress?
Ça, c'était en 2002. En plus, non, mais j'ai même mieux, j'ai une anecdote dans l'anecdote.
C'est fort.
C'est en 2002. C'est une Panos. Panos LMP1 Roadster.
Du Gunnar Racing.
Du Gunnar Racing, exactement. Donc, équipe avec des intérêts et gérée par Gunnar Janet. J'ai une anecdote parce que j'échange souvent avec des photographes parce qu'on a des besoins iconographiques pour le site internet et puis pour les articles que je peux rédiger. Souvent, j'ai besoin d'images d'archives. Et il y a un photographe avec qui j'ai échangé, Jacques Vivier. S'il écoute ce podcast, je le salue. Il m'envoie des images quand je lui ai demandé sur des articles historiques. Il m'a envoyé des images. Et puis, à un moment, il me dit, mais tu sais que j'ai des photos de panneaux. Je dis, ok. Il me dit, en fait, c'est moi qui ai fait la photo. de la Panose avec les B17. Donc tu vois.
Mais non.
Donc voilà, donc j'ai le. Donc si tu veux, je peux lui demander, j'ai toute la séance photo, parce qu'effectivement, il y a deux, trois photos où il y a la mise en place de la voiture devant l'avion, il y a l'équipe, etc. Enfin voilà, il y a toute une mise en scène, mais je pense
Mais c'est
il a
génial!
les rushs de toute la séance, quoi. Voilà.
Ah ouais, trop bien, avec le double zéro, hein,
Ouais.
cette voiture du Gunnar Racing. Donc, ouais, c'était assez impressionnant. Bon, c'était la petite anecdote, mais merci pour cette anecdote dans l'anecdote. C'est
Et
un peu Inception, hein, cette émission.
ces lignes, quoi, puisque tu as très bien revu, tu as très bien raconté l'origine de l'épreuve, il y a aussi un truc qui n'est pas forcément très connu, c'est que c'est dans les années 60, je crois que c'est en 60, ouais, c'est 67, il avait été évoqué d'arrêter de courir à Sebring et
Oui.
de basculer sur un circuit plutôt à West Palm Beach, donc pas très loin d'ici, on reste dans la Floride, hein. Mais l'idée, c'était peut-être que. Alors, il y a plein d'éléments. La Floride, c'est assez particulier, hein. Donc là, il y avait l'élément de la piste qui est cassante, comme on l'a dit, ancien aéroport. À la base, c'est pas un circuit. La météo aussi, je sais pas, c'est pour moi s'exposer. Il y a beaucoup de. Le climat est très changeant là-bas. Il y a beaucoup d'orages. Et les fans de sport auto le savent. Il y a souvent des épreuves qui sont suspendues ou décalées. Parce que dès qu'il y a un risque d'orage en Floride, c'est pas les petits orages comme chez nous. C'est très dangereux. Donc on met tout en pause. Donc voilà, il y avait eu cette idée de délocaliser la course. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et tant mieux, parce que sinon, on aurait perdu un monument, ou alors on n'aurait pas eu le temps de se rendre compte que c'était un monument, tu vois.
Oui, ça c'est sûr. Alors tiens d'ailleurs, ça fait partie aussi de ces circuits qui sont entrés dans la culture populaire finalement, parce qu'il y a un film qui a été tourné, des séquences du film La Kermesse des aigles. Alors je t'avoue que je l'avais
Waouh,
pas
alors celui-là,
celui-là.
non, je l'ai pas.
Et avec Robert Redford hein, quand même, The
Ouais.
Great Waldo Paper, et ben on a des scènes dans ce film. Alors je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, mais je suis juste en train de dire que l'aérodrome de Sebring et le Sebring Raceway ont été le théâtre justement d'un tournage de film. Donc ça va dans le sens de ce qu'on dit, où en fait ce circuit, ben, il est mythique depuis des années justement, et il s'inscrit à travers même la culture populaire, quoi.
Alors, est-ce que tu veux que je te balance une petite anecdote aussi sur
Ben oui.
l'édition 74?
Vas-y.
Celle-ci, je l'aime bien. 74, il n'y a pas eu d'édition. Parce que on était crise pétrolière, enfin voilà, difficulté à organiser des épreuves. Beaucoup d'épreuves aussi de sport auto étaient réduites en durée pour limiter la
Ouais.
consommation de carburant. Et donc, pas d'épreuves organisées à Sebring en 74. Mais il y a quand même des gens qui se sont pointés. Alors bon, bah, ça peut paraître bête, mais on est sur une autre époque, c'est-à-dire les infos, tu les chopes pas sur un smartphone, tu les récupères pas dans un podcast ou sur Instagram, tu vois. Donc il y a une espèce de force
Parce
des
qu'ils
choses
connaissaient pas
aussi.
Endurance Club. Parce
C'est
qu'ils connaissaient pas
bah,
Endurance
voilà, c'est ça,
Club.
parce qu'on existait déjà vu le nombre de numéros qu'on a derrière nous. Mais donc à l'époque pas d'édition, mais les organisateurs du 12 heures de Sebring estiment qu'à l'époque il y a quand même entre 2000 et 5000 fans qui se sont pointés aux portes du circuit pour assister à la course, quoi.
Ça, c'est quand
Alors
même
qu'elle n'a jamais
génial.
eu lieu. Ça, je trouve ça fou, quoi.
Attends, il y a aussi autre chose. Tiens, du coup, je rebondis. C'est bien parce qu'on n'a pas préparé l'émission avant et c'est vrai, je l'avoue. Mais en tout cas, on est bien liés parce que tu parles de personnes qui viennent sur le circuit sans avoir d'autorisation, entre guillemets. Eh ben, en 55, c'est ce qui s'est passé au 12 heures de Sebring. Il y a pas mal de voitures qui ont pris la
Ah
piste sans
oui.
en avoir été autorisées. 10 voitures de réserve se sont infiltrées en piste. Bon, ils ont eu un ou deux tours hein, avant de quitter la piste. Ça m'a rappelé l'histoire, tu sais, en Formule 1 de Hans Eyer, je crois, en 77, qui était venu sur la grille de départ d'Hockenheim, alors qu'il n'avait pas du tout le droit d'y être.
Oui, il faut tenter,
C'est
quoi.
assez rigolo.
Oui, parce que
Ouais.
c'était pilote allemand, voiture allemande, enfin, il y avait tout, tu vois, tu te dis, bon, allez,
Oui, c'est ça.
on laisse faire ces quelques
Enfin, il
mots.
n'était pas qualifié quand même, hein.
Ouais. Mais
Et
non, mais
bah là, en 55, c'est pareil.
c'est vrai qu'il y a pas mal de légendes. Alors, il y a une autre légende que j'ai trouvée sur le site officiel des 12 heures de Sebring, où ils expliquent que, ça c'est un peu plus morbide, tu vois, je prends ma voix un peu plus grave, je sais pas
Aïe.
si t'as suivi.
Je le sens.
La légende raconte que la Ford GT pilotée par Bob McLean en 66, il a eu un accident au niveau de l'épingle, tu sais, le circuit. Je pense que vous avez le tracé, si vous nous écoutez, vous connaissez Sebring. Si vous voyez bien le tracé, on a le départ, l'enchaînement des premiers virages, on a le virage Tom Christensen d'ailleurs, je crois, qui a été nommé comme ça parce que c'est le recordman de victoire là-bas. Puis ensuite, on a une belle phase d'accélération et on arrive à l'épingle. Et il y a eu un accident ici en 66 et la légende dit que les restes de la Ford GT ont été enterrés à quelques mètres à côté. Les mecs se sont pas dit qu'ils allaient récupérer la voiture, elle devait être irrécupérable.
Ah ouais.
Et donc, ils l'ont
Ouais.
enterré là avec quelques restes d'une Alfa Romeo aussi. Donc
Ah
voilà,
oui.
si vous voulez chercher, peut-être il y a peut-être un numéro de châssis à récupérer pour une Ford GT. Ça peut
Aïe. Ah
servir,
oui, d'accord.
voilà.
Non, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de ce folklore, hein, justement. Il y a des choses qui sont vraies ou pas d'ailleurs,
Oui.
mais en tout cas, c'est vrai que Sebring, c'est beaucoup calé en fait sur les 24 heures du Mans, parce qu'on parlait de cette première édition, là, cette réunion en 1950. Alors, c'était même pas encore les 12 heures, hein, évidemment, mais de 50 à 69, en fait, on a pris le départ triplement,
Ouais.
et bah, ça correspond évidemment à la malheureuse année 69 pour le décès de John Wolfe aux 24 heures du Mans. Ensuite, on a même arrêté aussi à Sebring. Finalement, on n'a pas voulu continuer cette tradition.
Ce qui est marrant avec Sebring, si tu veux, on peut évoquer un petit peu ça, c'est le côté, effectivement, il y a une, c'est un peu les 24 heures du Mans à la sauce américaine, exactement comme Don Panos a voulu le recréer aussi avec le Petit Le Mans, exactement comme les 24 heures de Daytona ont leur identité propre, mais il y a ce lien avec les 24 heures du Mans qui existe. Mais par contre, il y a toujours cette approche, j'ai jamais été à Sebring, mais de ce que j'en vois, de ce que j'en connais, il y a toujours cette approche, cette volonté d'avoir un truc particulier. Par exemple, il n'y a pas de box, il n'y a pas de garage construit en dur à Sebring. Donc c'est quand il y a quand y a un problème, s'il faut faire des réparations, bah, c'est pour ça que vous allez voir les voitures passer devant leur box, aller un peu plus loin, rentrer à droite et aller derrière où Porsche, là cette année on n'a pas les engagés du WEC, mais les années précédentes par exemple, vous pouviez avoir Porsche, Peugeot, Toyota. Ils ont monté leur petite tente, ils ont monté leur truc
Oui.
un peu à l'arrache comme on pourrait être sur un meeting de motocross ou de rallycross, quoi. Je caricature à peine, hein. Et ils bossent là. Alors évidemment, ils ont des motorhomes, il y a des structures un peu plus complètes, mais
Bien
aux
sûr.
24 heures du Mans, on a ça, plus les box en dur, qui sont vraiment le truc central. Les équipes aux 24 heures du Mans, elles ont besoin d'avoir leur stand, leur box bien aménagé, bien structuré, avec les éléments rangés. Là, il faut tout construire soi-même, quoi. C'est vraiment à l'arrache.
Ouais, c'est un Lego géant. Mais alors, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'on n'a pas de Super Sebring cette année, puisque le WEC a débuté sa saison au Qatar et que, bah, ils ne passeront pas par Sebring. On n'aura pas donc la course de WEC la veille et la course d'IMSA le lendemain. Bon, c'est dommage en un sens,
T'aimais
mais
bien
d'un
ça,
côté, le
toi?
WEC n'était pas vraiment mis en avant. Non.
Ça te plaisait le Super Sebring, toi?
Bah, ça me plaisait sur le principe. Maintenant, je trouvais que le WEC n'était pas vraiment mis en avant par rapport évidemment aux
Pareil,
12 heures de Sebring,
pareil.
qui pour les Américains est vraiment l'une des mecs, j'allais dire.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve que ça avait du sens de rouler à Sebring, mais pour le WEC, mais où il fallait le faire bah, dans le cadre des 12 heures de Sebring, comme ça s'est fait au tout début du WEC, puisque la première course du WEC en 2012, c'est les 12 heures de Sebring. Ou alors il fallait le faire sur une autre épreuve, du genre une épreuve de 10 heures en j'ai n'importe quoi, parce qu'avec les saisons, je vais peut-être dire de la merde, mais une épreuve de 10 heures en septembre, tu vois, j'en sais rien, tu cales ça dans le calendrier avec le
Mais
quota, et voilà.
tu trouves pas que ce serait logique, alors c'est une idée comme ça que je viens d'avoir parce que tu m'en parles, mais de faire Petit Le Mans et en fait un super Petit Le Mans, je sais pas, c'est peut-être bête, avec du WEC et de l'IMSA.
Tu veux dire deux courses au Petit Le Mans?
Bah ouais. Je sais pas, comme il y a Le Mans dans le nom, ce serait pas mal.
Ouais,
Compliqué. Bon,
en tout
d'accord.
cas, moi j'aimerais bien que Road Atlanta revienne au calendrier du WEC. Ça, c'est, enfin, ça serait top. Le Petit Le Mans a
Bah, je
été
sais pas si c'est
organisé dans le
possible,
cadre
ouais.
de l'ILMC notamment. Et ouais, voir. Après, là, ce qui est compliqué dans la période actuelle, c'est que vu qu'on a cette fameuse convergence qu'on a attendue des années et qu'on a les mêmes voitures qui se battent au top niveau. Finalement,
Oui.
même les courses qui sont que IMSA, si on part du principe que le WEC est quand même le plus gros championnat, puisque championnat du monde sanctionné par la FIA, etc. Si on part du principe que le championnat IMSA est un petit cran en dessous, en termes de diversité, de qualité, etc., on est quand même pas mal loti, puisque dans la top catégorie, on a presque toutes les mêmes voitures, sauf les LMH.
Ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup de gens qui disent que l'IMSA est le meilleur championnat par rapport au WEC. On a 2 heures, on peut en débattre. Ça, c'est.
Oui, c'est ça. On ne l'évoquera pas aujourd'hui. C'est très difficile de
Ouais.
faire des comparaisons. C'est pas du tout la même philosophie. Alors, même si on a quand même une convergence aussi, tu le disais, même au niveau des règlements, et ça, on fera un épisode là-dessus. C'est vrai que c'est plus serré jusqu'au bout, mais allez, on va dire quand même que c'est artificiel. Moi, ça me plaît parce que je commente les courses d'IMSA.
Oui.
Donc, évidemment que c'est super d'avoir des arrivées comme en 2021, tu vois, à Sebring où ça se joue à 2 secondes. Mais ça se joue à 2 secondes parce que justement, on a fait tellement de neutralisation et de regroupement de paquets. Que bah forcément que ça va se jouer dans les derniers instants en fait.
Et puis l'IMSA a aussi dans ses gènes, on dit l'IMSA, mais le vrai nom c'est le WeatherTech Sports Car Championship.
Oh punaise.
Ouais, non, mais c'est vrai, c'est marrant, tout le monde l'appelle ça l'IMSA, alors que C'est comme si tu appelais le WEC le FIA, quoi. C'est, ça
la CO.
Ouais, voilà,
la CO ou la FIA. Parce qu'en fait, l'IMSA, c'est l'organisme, finalement, voilà. L'International Motorsport Association.
Mais bon, c'est un espèce de truc qui a été. Une espèce de règle, on appelle ça l'IMSA. Ce championnat, il a quand même dans ses gènes aussi, peut-être que tu vas me dire si je me trompe, mais un héritage de toute l'époque années 80-90.
Oui.
Où il y a beaucoup de courses qui finalement ne font que 2h45. C'est-à-dire que alors, c'est déjà de l'endurance 2h45, hein, comparé à un Grand Prix de Formule 1 ou une course sprint de 20 minutes, on est d'accord. Mais ça reste de la semi-endurance, là où le WEC, par exemple, ne fait pas de course de moins de 6 heures, tu vois. Donc c'est, ouais. C'est la plus petite course du WEC fait deux fois plus longtemps que la plus petite course de l'IMSA.
Ouais, c'est sûr, et ça fait partie, une course de WEC, des courses d'endurance, si tu veux, majeures de l'IMSA, comme les 6 heures de Watkins Glen, et cette année, 6 heures aussi à Indianapolis. Donc voilà, c'est vrai que ça met la barre à un certain niveau. Alors c'est rigolo, tu parles de Formule 1 pour comparer avec la distance et avec la durée. Eh ben, en 59, à Sebring, on a eu une course de Formule 1, mais l'expérience n'a pas été renouvelée parce que, évidemment, le tracé n'était pas forcément adapté, et puis il y avait des coûts assez élevés. Donc, mais bon, on pourra dire que Alec Ullmann, de par son envie de créer un circuit, il a quand même attiré la Formule 1.
Ouais, il y a eu de la monoplace aussi au Bugatti, c'est marrant, tu vois, il y a des parallèles à faire.
Bah ouais.
Mais ouais, carrément. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien cette. Pour synthétiser un peu sur Sebring et sur l'IMSA, j'aime bien cette approche. Et c'est effectivement, vouloir comparer l'IMSA et le WEC, c'est un peu maladroit parce que le WEC reste un championnat relativement jeune, on va dire. Il a été relancé en 2012. Avant, bien sûr, il existait sous d'autres formes. Vous connaissez sans doute tout ça dans les années 80-90, mais il a été relancé sous sa forme moderne en 2012. L'IMSA, le WeatherTech tel qu'on le connaît, il date de 2014. Mais je trouve que, ouais. C'est ce que je voulais te dire, il porte un héritage beaucoup plus fort de toute l'époque du Camel GT Championship, du Grand Am, de tout ça, tu vois, les épreuves courtes, effectivement, avec un spectacle très intense, avec des grosses batailles. Ça a toujours été dans l'ADN de ce championnat, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ben, en fait, ces 12 heures de Sebring, ça fait, comme je disais, voilà, partie de cette épreuve mythique, de ces épreuves mythiques, hein, évidemment, qui attirent beaucoup de pilotes, de passionnés, mais aussi d'acteurs, parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de films qui étaient tournés justement à Sebring. Ben, on a eu quand même pas mal d'acteurs, hein. Steve McQueen a terminé deuxième en 70 de cette épreuve, avec une Ferrari qui était engagée, je crois, avec Mario Andretti, donc ça, c'est quand même dingue. Gene Hackman aussi a roulé, Paul Newman, évidemment, Patrick Dempsey, bien sûr. Donc, on a toujours cet attrait, finalement, pour une course comme Sebring, et même si il y a des bosses, même si c'est pas une piste où on va dire qu'on a des standards qui sont dignes du WEC, hein, par exemple, ou des circuits de Formule 1, eh ben, ça attire toujours, parce que je crois que ce que veulent les gens à Sebring, peut-être même plus qu'à Daytona, mais encore, j'en suis pas certain, mais c'est vraiment cette atmosphère et cette fête entre les spectateurs qui viennent avec leurs campers, là, tu sais, leur camping-car et tout, et passer finalement un excellent moment, quoi.
Ouais, c'est vraiment un circuit qui est fait pour ça, c'est-à-dire que la piste, elle est relativement plate, puisque comme vous l'avez dit en intro, c'est un ancien aéroport militaire, donc
oui.
Le site est vraiment avec aucun dénivelé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire des petites bosses, des monticules de terre pour que les spectateurs aient une visibilité. Et puis, comme tu l'as dit, c'est à l'américaine. Ça, pour le coup, même si j'ai pas été à Sebring, j'ai déjà eu la chance d'aller à Daytona. Il y a ce côté, on vient avec le van, avec les grosses installations. À Sebring, c'est... Bon, en tout cas, ce que j'ai pu expérimenter à Daytona, c'est que les mecs se pointent. Mais comme certains, comme beaucoup d'Anglais aussi et d'Allemands aux 24 heures du Mans, ils se pointent avec le camping-car.
Ouais.
Et avec des installations pour pouvoir manger, boire à volonté, tout ce que tu veux pendant une semaine. Mais ils vont aussi plus loin dans le niveau de détail, c'est-à-dire que tu ramènes le canapé hyper confort, la télé 200 cm. Enfin, je veux dire, c'est pas juste on fait en sorte de bien manger, de bien dormir pour récupérer. Non, c'est aussi on installe la maison au circuit, quoi. Et ça...
Mais oui, mais c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme au Nürburgring.
Ouais,
en fait, voilà, il y a des circuits comme ça qui attirent ce type de spectateurs. J'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus. Il y a un spectateur en 2003, ça m'a fait mourir de rire. J'avais oublié cette anecdote, en fait, qui arrivait avec 3 mois d'avance. Là, c'est pas une semaine d'avance.
À Sebring, tu veux dire, à Sebring.
Oui. Ah, c'est génial. Le gars, il voulait être bien placé. Si tu veux, ah bah oui, il est arrivé le 26 décembre pour la course qui avait lieu 3 mois après.
Ah, elle a eu lieu, lui au moins, il n'a pas attendu pour rien, ça va.
C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tiens, il y en a deux courses qui n'ont pas eu lieu dans cette période de mars traditionnelle. En 67, avec une course le 1er avril, c'était pas une blague. Et en 2020, évidemment, avec l'année Covid, la course a eu lieu les 13 et 14 novembre. Sinon, tout le temps, la course a lieu en mars, à la date que l'on connaît évidemment, peu ou prou, à quelques jours d'intervalle. Mais c'est assez intéressant de savoir dans toute cette histoire, finalement, que deux épreuves seulement ont été un peu décalées, quoi.
Je me souviens de Sebring 2020, ça a été vraiment l'épreuve,
oui.
le catalyseur, on va dire, du début de la crise Covid, puisque si vous vous souvenez de cette époque pas si lointaine pour le coup, il y avait la Formule 1 qui était en Australie, je crois,
Oui,
où on
le rallye
a,
qui était au
on
Mexique.
a pas, au dernier, jusqu'au dernier moment, on savait pas s'il allait y avoir la course, pas la course, les spectateurs étaient sur place, etc. etc. Et Sebring, il y a eu un peu ce délire aussi où. Beaucoup de pilotes, et je pense à un pilote en particulier que tu connais, c'est David Heinemeier Hansson, qui est
Oui.
gentleman driver, multimillionnaire, un gars très, très connecté,
Pas mal.
très intelligent, très futé, qui fait de la course à un plutôt bon niveau, mais qui n'a pas besoin de ça pour vivre, qui en gros, lui, alertait sur le fait que les États-Unis ne prenaient pas les mesures suffisantes pour endiguer la crise du Covid-19. On était vraiment au tout début, hein. Mars 2020, c'est vraiment moi, je me souviens d'aller à Rétromobile quelques semaines avant. On était sans
Ah,
les
mais bien sûr.
masques, on se détendait, quoi. Donc
Ah
là.
bah attends, mais moi je me souviens que c'était je crois que ça s'est joué le 14 ou le 15, je dis peut-être une bêtise, peut-être un petit peu avant, parce que je commentais sur Canal le rallye, si tu veux, le vendredi, samedi, et en fait le dimanche on m'a dit non, non, mais reste chez toi, on est confiné, quoi.
Voilà, et
Donc
donc, et tu vois, cette épreuve de Sebring, je m'en souviens très bien de 2020, où vraiment. Les organisateurs ne savaient pas comment faire, s'ils allaient maintenir ou pas. Et puis il y a des enjeux financiers, on ne va pas se mentir derrière. Annuler une épreuve comme ça, c'est toujours
bien
très
sûr.
compliqué. Et voilà, et ça a servi un peu de. Pas d'événement milestone, tu vois, de trucs marquants, mais un petit peu quand même, parce que je sais qu'en tout cas, pour revenir sur David Heinemeier Hansson, il est resté un peu éloigné de la scène du sport auto pendant quelques temps, puisque ça l'a un peu marqué ce côté.
Ah ouais.
Ouais, en fait, il m'avait dit, tu vois. Pas le business avant l'humain, mais le côté. Il savait pas trop, il était un peu. Je pense que c'était un peu aussi une quête personnelle, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, il est revenu et maintenant, on le recroise souvent. Et aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup plus aussi de choses dans les règlements. Et notamment, j'ai épluché le règlement pour une de nos futures émissions, le règlement du FIA WEC, où il y a beaucoup plus de données sur à partir de jusqu'à quelle date tu peux annuler une épreuve. Quels sont les motifs pour annuler une épreuve? Quelles sont les assurances qui entourent ça? Parce que bah voilà, c'est jamais simple d'annuler une épreuve alors qu'elle va se tenir, alors que des concurrents sont déjà peut-être partis. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui ont été
D'accord.
ajustées avec ça, quoi.
Ouais, c'est top. Alors, il y a aussi une autre petite anecdote.
Oh
J'allais
mais
faire le parallèle
il est
avec Le
très
Mans.
anecdote aujourd'hui, hein.
Ah, mais moi, je suis très anecdote. Ah, mais moi, j'aime beaucoup ce format. On va bientôt se quitter, malheureusement, j'allais dire, parce qu'on ne peut pas faire non plus 3 heures. Mais on sera de retour la semaine prochaine. Hein. Déjà, je tease pour l'Endurance Club, pour le 7e numéro. Je trouve qu'il y a pas mal de parallèles avec les 24 heures du Mans aussi. 68, ça a été décalé en septembre. Et donc, 2020, décalé aussi en août. Je crois qu'il n'y a que 2 fois que les 24 heures du Mans n'ont pas eu lieu en juin. Donc, c'est un peu pareil que
Non,
Sebring.
il y a eu août et septembre pour le Mans. Entre 2020 et 2021,
Ah
il y
voilà,
a eu
c'est vrai.
2020, je
Ok,
crois que
donc
c'était
3 fois.
septembre, et 2021, août ou l'inverse. Ouais, voilà.
Août, c'est ça, c'est ça. Donc 3 fois, 2 fois pour Sebring. Bon, en même temps, attends, il y a 100 ans d'histoire au Mans, il n'y en a que 50 à Sebring, c'est normal.
Non, mais carrément,
Un peu
carrément.
plus.
Ouais.
Un peu plus. C'est la 72e édition. Et d'ailleurs, en 2020, c'est la première fois, puisque Sebring a été décalé à la fin de l'année, que le titre s'est joué là-bas, évidemment. Et c'était Taylor et Castroneves qui avaient été titrés. Donc voilà, ça faisait partie de ce folklore, justement, du fait d'avoir décalé la date. On revient en 2024 rapidement, avant de conclure, où on a eu une annonce folle. T'en parlais en ouverture,
Ouais,
qu'on essayait de suivre l'actu, finalement, et que c'était à peu près fait exprès. Non, c'est pas vrai, pas du tout. On a appris que Cadillac ne ferait plus appel à l'équipe Chip Ganassi à l'issue de la saison 2024. Alors ça, c'est quand même dingue.
c'est une info qui a été sortie par Racer et puis Daily Sports Car aussi. Donc apparemment, le contrat prend fin à la fin de cette saison 2024 entre Chip Ganassi et Cadillac, et il ne sera pas renouvelé. On n'a pas de
Ouais, il n'y
détails.
a pas eu d'envie. Il n'y a pas eu d'envie de la part des deux parties, a priori. C'est ça qui est dingue, parce que qu'un contrat se termine, bon,
Oui.
ça c'est normal, mais après on renouvelle, quoi.
Ben voilà, donc on n'a pas de détails sur le pourquoi. Tout ce que j'ai vu, c'est que du côté de Chip Ganassi Racing, on dit qu'on est clairement en recherche d'un autre constructeur pour engager des voitures. Donc voilà. Et du côté Cadillac, il n'y a pas de commentaire pour le moment. Mais les rumeurs disent qu'ils seraient tournés vers des équipes en Europe pour l'exploitation du programme en WEC. Donc apparemment, il y a les noms de United Autosport qui circulent. Ils n'ont toujours pas de programme en hypercar. Il y a le nom de TF Sport aussi qui circule. Enfin, voilà, c'est...
Ah, je verrais plus TF Sport, puisqu'ils engagent les Corvettes. Ce serait pas mal, ça.
Ça ferait un lien, effectivement. Ils seraient passés d'Aston à la famille GM. En tout cas, c'est une annonce qui est quand même assez folle, parce que ça fait que 2 saisons que le programme est lancé. Et c'est clairement pas là que tu récoltes... Enfin, tu récoltes pas tout de suite les fruits d'une collaboration, même s'il y a déjà eu il y a déjà eu des succès pour Cadillac, mais...
Ben voilà, d'un autre côté, c'est peut-être ça aussi. Quand on voit, si tu veux, l'équipe Action Express, où tu te dis, bon, ils sont quand même moins expérimentés que Chip Ganassi, ben oui, mais au moins, ils font des pôles, ils gagnent, ils sont champions. Bon, ben Chip Ganassi, force est de constater que moi, je suis très enthousiaste à l'idée de voir cette numéro 01 être bien placée, notamment au Mans, avec les pilotes qui vont avec et qui sont juste dingues. On parle de Sébastien Bourdais, évidemment, mais bon, Scott Dixon, Alex Palou et même Van der Zande.
C'est propre, ouais.
Bon, c'est quand même, c'est vrai, un petit peu logique aussi de se poser la question côté Cadillac, en se disant, bon, bah, ils sont bien gentils chez Chip Ganassi, c'est top, mais ça gagne pas, en fait.
Après, chez Cadillac, il y a 25 ans, ils prenaient déjà des décisions un peu merdiques, hein, tu sais, au Mans, enfin, moi, je me souviens, l'époque, l'épopée 2000, 2001, 2002... Bah voilà, ça c'est raconté sur Endurance Mag d'ailleurs, il y a des articles dédiés à ça. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est des choix un peu chelous, quoi. C'est de prendre une base technique déjà existante, et puis après il y a plusieurs équipes, et puis finalement on arrête le financement, et puis on stoppe le programme assez tôt. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé ce qu'ils voulaient trouver en termes d'exposition médiatique, en termes de, tu vois, de ils ont déjà gagné des courses aux États-Unis, Cadillac qui sont plutôt, enfin voilà, qui font le boulot en termes de, encore une fois, de communication et de marketing. Donc, et puis ça veut pas dire qu'ils arrêtent le programme non plus, puisqu'apparemment avec Action Express ça continue. Donc ils sont seulement en train de chercher un autre partenaire. Peut-être qu'il y a un problème de relation.
Attends,
c'est rien, tu vois.
Mais ce qui s'est passé à Acura, moi je fais le parallèle, ouais. Ça peut être 2 voitures engagées par Action Express, tout comme Wayne Taylor engage 2 Acura cette année, après l'histoire et l'imbroglio avec Meyer Shank.
Ouais, voilà ce que j'allais dire, chez Meyer Shank ils ont merdé, donc il y a quand même, à mon avis, ça a pesé dans la balance. La tricherie à Daytona dès la première épreuve a clairement joué, à mon avis, pour ne pas renouveler le contrat. Là, peut-être que chez Chip Ganassi, il y a un truc aussi qui va pas, on n'est pas au courant, mais ouais, je sais pas.
Ouais, en termes de relations. Bon, ben on verra ça. En tout cas, 72e édition, je le rappelle, je le répète, samedi 14h30 sur Automoto, la chaîne à suivre. Les résumés, évidemment, sur Endurance Mag. Et puis, on aura un Endurance Club dédié à cette édition des 12 heures de Sebring. Bon, je te pose pas une question piège, mais qu'est-ce que tu espères dans la course? Et surtout, qui vois-tu comme favori, même si on sait que ça va être difficile de vraiment établir une hiérarchie, d'autant plus avec ces scénarios un petit peu fous en IMSA.
J'attends une bataille Porsche Cadillac aux avant-postes. J'espère des BMW beaucoup plus dans le match. Voilà.
Ça va être dur.
Et toi,
ça va être dur.
Que,
bah, tu sais,
que tu espères?
Je vois bien Porsche, évidemment. Cadillac, ils seront là. Mais je me dis qu'Acura veut prendre sa revanche et pourquoi pas avec la 40, avec Deletra, Taylor et Herta. C'est pas l'équipage le plus rapide, hormis Louis Deletra, si tu veux. Oui. Moi, je fais moins confiance à Colton Herta, malheureusement, même si j'aime beaucoup l'IndyCar, mais je le vois moins en tant que pilote d'endurance. Wayne Taylor Racing, attention à Sebring, ça peut peut-être faire quelque chose. Mais c'est vrai que Porsche sera là, Cadillac aussi, donc je pense qu'on aura une belle édition, ça sera top.
Donc du coup, si je reprends, toi, tu es au micro sur Automoto la chaîne ce week-end pour commenter les 24 heures de Daytona.
Oui. Je ne sais pas encore quelle heure, je pense que je vais prendre mon relais à partir de 20h. Moi, je suis une bête nocturne, tu sais.
Ça marche, et pour celles et ceux qui ont envie de lire un petit peu en attendant Daytona, j'ai un article dans Autoeddo cette semaine où je parle, je bascule sur un autre sujet, hein, pour le coup.
Ouais, vas-y, t'as raison.
Où je parle de la catégorie GT3 et de la convergence entre la CO et SRO. Et des différences, ça c'est un truc, ça aussi c'est un épisode dédié, hein, ou des catégorisations de pilotes et du coup des règles qu'il faut respecter pour rouler ou en GT World Challenge Europe ou en WEC. C'est pas très sexy comme ça, comme je le raconte, mais en gros l'idée de l'article c'est de montrer la philosophie derrière ça et le fait que les deux championnats ne sont finalement pas du tout dans le même esprit et que voilà, il y a les deux cohabitent pour l'instant, mais peut-être qu'à terme, il y aura des changements de ligne, quoi, des différences, voilà.
Ouais, bah faut que les deux s'apprivoisent, entre guillemets, mais c'est vrai que l'arrivée de ces GT3 dans les championnats assez hauts et FIA, c'est assez intéressant. Tu t'instances promo aussi, puisqu'on est à Sebring et aux États-Unis. Cette semaine-là, dans Trajectoire, dans le podcast que j'ai le plaisir d'animer, je reçois Didier André qui, lui, a tenté le rêve américain. Donc voilà, justement, ça fait partie de ces pilotes qui ont aussi roulé au Mans, donc voilà, qui connaissent à la fois la monoplace américaine et l'endurance, un peu comme Chip Ganassi, finalement.
Vas-y,
Voilà.
Didier André, il connaît tout ce qui roule à peu près, je pense. C'est
Oui, je crois aussi.
ouais, clairement. Ouais. Ok, et bah cool.
Quelle
Et bah
carrière.
écoute, je pense qu'on
Il
a
est
fait.
trop cool.
Ah ouais.
Didier est trop cool et je le remercie encore grandement. Et toi aussi, je te remercie parce qu'on a été complet. Bon, on a essayé en tout cas. Pas trop long, mais avec des petites anecdotes qui, je l'espère, n'étaient pas trop
On
connues.
a fait, écoute, la durée d'un relais au Mans quasiment. On a utilisé notre
Ouais.
énergie. Il faut qu'on repasse au stand. Ça fait 45 minutes. Écoute, c'est bien. C'est parfait.
Ouais, c'est pas mal. On se retrouve la semaine prochaine donc dans l'Endurance Club, Geoffroy. Merci beaucoup. Et puis bah évidemment, ce week-end, on compte sur vous pour suivre les 12 heures de Sebring pour lire tous les articles sur Endurance Mag. Et donc, bah voilà, forcément, on se retrouve sur toutes les plateformes dédiées pour continuer de faire partie du club de l'Endurance Club. Salut à tous.